Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.
L'intelligence artificielle est partout autour de nous. Et dans votre entreprise ? C'est le moment de vous lancer. Exploitez le potentiel de l'IA et boostez votre entreprise. Avec Digital Wallonia, bénéficiez d'un soutien financier et d'une équipe d'experts à vos côtés. Inscrivez-vous dès maintenant sur digitalwallonia.be/IA.
Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Quelle est la vraie influence de l'intelligence artificielle sur le monde du travail? Sera-t-on bientôt remplacé par l'IA? On voit ça dans un instant. Mais d'abord, on se plonge dans les questions d'actualité de notre dernier grand baromètre. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Les Belges iraient-ils voter si ce n'était pas obligatoire? Quels sont, d'après eux, les thèmes prioritaires dans la perspective des élections? Le PTB, le Vlaams Belang, doivent-ils avoir la possibilité de monter au gouvernement? Voilà une partie des questions d'actualité qui ont été posées dans le cadre du grand baromètre Le Soir Ipsos RTL Info. Sondage réalisé du 11 au 18 mars auprès de 2600 répondants. On a demandé à Bernard de Monti, le chef du pôle pouvoir, de passer en studio pour détailler et analyser ces questions. Bonjour Bernard.
Bonjour Pierre.
On se retrouve pour évoquer un deuxième volet de notre grand baromètre. Les analyses de la partie intention de vote et popularité sont évidemment toujours disponibles sur notre site, le podcast aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, on va se plonger dans les questions d'actualité évidemment liées aux élections qui arrivent. Le sondage interroge les Belges sur ce qu'ils considèrent comme des thèmes prioritaires dans la perspective du scrutin. Et dans les trois régions, c'est le coût de la vie, le pouvoir d'achat qui sont numéro un.
Oui, ça reste une préoccupation majeure. On voit qu'il y a quand même une petite détente de nos sondés au niveau des prix de l'énergie proprement dit. Donc, ils ont tous compris en regardant leurs factures que le gros de la crise était, en tout cas pour l'instant, derrière nous. Par contre, il reste de vraies craintes au niveau de l'inflation, une sensation justifiée de voir les prix augmenter ou rester élevés dans les supermarchés pour les produits de grande consommation. Ça reste la principale préoccupation des Belges, tant en Flandre d'ailleurs, il faut le relever, que du côté francophone, là où dans un sondage récent du Standard, c'était l'immigration qui arrivait en premier en Flandre, pas dans notre sondage. Elle est plus haute, l'immigration, qu'en Wallonie et qu'à Bruxelles, mais la principale question préélectorale, c'est le pouvoir d'achat.
On l'a dit dans le podcast consacré aux intentions de vote, le Vlaams Belang risque de faire un score très important. On peut donc se poser la question, est-ce qu'on pourrait voir Tom van Grieken nommé formateur par le roi? Et en tout cas, quand on pose la question au sondé, 55% des Flamands interrogés disent « Oui, ça pourrait être le cas, il faut lui donner la possibilité » de former un gouvernement.
Voilà, il y a côté flamand une acceptation du fait Vlaams Belang, alors qui dépasse en plus les électeurs du Vlaams Belang, puisqu'on sait que dans nos intentions de vote, dont nous parlions dans un précédent podcast, le Vlaams Belang approche les 30%. Ici, on a 55% de Flamands qui pensent que s'il gagne les élections, le Vlaams Belang doit voir son leader devenir formateur du gouvernement fédéral, ce qui serait effectivement une première historique. Le roi a déjà reçu Tom van Grieken au précédent scrutin en 2019, hein, c'était pas passé comme une lettre à la poste, mais ici ce serait aller un cap plus loin puisqu'il serait chargé de tenter, le moins important, une formation gouvernementale, sachant qu'aucun francophone ne veut du Vlaams Belang au fédéral. Le mot tenter me paraît presque un euphémisme.
Et d'ailleurs, 47% des Flamands estiment que le Vlaams Belang doit pouvoir faire partie d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il ne faut pas lui fermer la porte de facto.
Non, c'est ça. Et de nouveau, on dépasse l'électorat Vlaams Belang. On ne dépasse pas l'électorat Vlaams Belang plus NVA, donc ça peut peut-être venir de là. Mais effectivement, les Flamands ont en soi, de nouveau ici, considère que le Vlaams Belang doit être traité comme un autre parti et donc peut parfaitement intégrer une coalition si l'électeur le décide. C'est d'ailleurs un peu aussi l'influence néerlandaise qui est peut-être là derrière, puisqu'ils ont quand même vu au nord du pays et sur des médias qui le regardent au moins en partie, qu'aux Pays-Bas, la question et la réponse à cette question était une évidence.
À l'autre bout du spectre, la question de la participation gouvernementale du PTB a aussi été posée et là les résultats sont plus mitigés.
Oui, les francophones et encore plus les flamands ne seraient pas enchantés de voir le PTB faire partie d'un prochain gouvernement. Alors c'est un peu logique que le PTB n'atteigne pas les niveaux du Vlaams Belang parce que dans les intentions de vote, le PTB est plus bas que le Vlaams Belang. On n'atteint pas les 30% dans aucune région où il se trouve, surtout pas côté francophone où il est le plus fort. Donc c'est peut-être ça qui explique qu'il y a moins de gens qui veulent voir au gouvernement, parce qu'en fait il y a une certaine cohérence intellectuelle de dire bah, puisqu'ils n'obtiennent pas un rapport de force totalement déterminant comme pourrait l'obtenir le Vlaams Belang, bah, c'est peut-être logique qu'on pense un peu moins à eux pour intégrer une coalition.
La Belgique fait parfois figure d'exception dans le monde avec son vote obligatoire. Là on voit que même sans vote obligatoire, une grosse majorité des électeurs flamands iraient voter, et c'est pas pareil pour les Wallons.
Non, effectivement, donc 76% des Flamands se rendraient aux urnes même s'ils n'y étaient pas tenus. Et je précise même qu'ils n'y sont pas tenus aux élections communales. Donc pour la première fois, les Flamands ne seront pas obligés d'aller voter au communal, contrairement aux francophones. Et donc effectivement, 76% des Flamands iraient aux urnes même s'ils n'y étaient pas tenus, mais seulement 58% des Wallons. Donc il y a clairement, et ça rejoint des constats que l'on trouve dans plusieurs sondages. Quand il s'agit de lassitude de la politique et même du fait démocratique, peut-être que j'y vais un peu fort, mais c'est quand même un peu ça qu'il y a là derrière, les Wallons sont les plus réticents, les plus déçus. Alors est-ce que c'est l'influence française? Est-ce que c'est la situation économique qui reste compliquée, qui leur fait penser que il y a plus besoin d'aller voter parce que de toute façon ça ne change pas? Contrairement à une Flandre prospère, tout ça peut jouer, mais je constate quand même au fil des sondages que le questionnement sur l'utilité de la politique est le plus prégnant en Wallonie et un peu moins à Bruxelles, voire même beaucoup moins, puisqu'il y a quand même 71% des Bruxellois qui iraient voter si le vote n'était pas obligatoire.
Parmi les dernières propositions électorales, celles qu'on a pu entendre ces dernières semaines, le Parti Socialiste a parlé d'une semaine de 4 jours payés 5, et là on remarque dans le sondage que les Flamands inégalisent. Croient pas, ils pensent que c'est une proposition peu crédible. Les Bruxellois et les Wallons y croient un peu plus, mais on n'est quand même pas sur quelque chose d'extrêmement franc.
Tout à fait. En fait, ça rejoint tout à fait ce qui s'est passé quand l'idée de Paul Magnette est sortie dans la presse. Hein, il a plaidé pour une semaine de 4 jours sans perte de salaire. La presse flamande a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette folie ?» La presse francophone a relayé la chose de manière beaucoup plus neutre, voire parfois en estimant que c'était une bonne façon de réduire la pénibilité. Et bien dans le sondage, on voit vraiment que ces réactions reflètent l'état de l'opinion, puisque 56% des francophones trouvent que cette idée-là est crédible et seulement 37% des flamands. Donc là, clairement, on a un fossé nord-sud qui ne nous étonne pas.
On termine avec le mouvement de protestation des agriculteurs de ces dernières semaines. Un mouvement dont on remarque qu'il est plus soutenu en Wallonie qu'en Flandre. Ça s'explique peut-être aussi par les activités principales qu'on peut retrouver dans chaque région.
Oui, c'est ça. D'abord, il y a une sympathie globale pour ce mouvement, hein, puisque quand même 67% des Belges le soutiennent. Mais effectivement, comme vous le dites, beaucoup plus de Wallons, 77%. Il y a sans doute une empathie plus grande des Wallons, fatalement, où se trouve aussi la plus grande partie du mécontentement. On a quand même constaté que les Wallons étaient plus mobilisés que les Flamands. Il y a également, je pense, une plus grande tolérance des Wallons aux mouvements sociaux, hein, c'est historique, que du côté des Flamands. N'empêche, si on prend les Bruxellois où l'agriculture est nettement moins répandue, c'est un euphémisme, il y en a quand même 70% qui soutiennent ce mouvement. Donc voilà. Alors que pour certains mouvements syndicaux, on a tout l'inverse. Les agriculteurs, ça reste une corporation qui a la sympathie du public, et ça se confirme très clairement dans le sondage.
Merci beaucoup Bernard.
Merci Pierre.
Cette semaine, le podcast du soir s'intéresse à l'intelligence artificielle, omniprésente dans les médias depuis fin 2022 et le lancement de ChatGPT. L'IA fascine autant qu'elle effraie, mais concrètement, quel est son impact sur nos vies, travail, santé ou enseignement? On verra comment l'intelligence artificielle peut intervenir dans ces domaines aujourd'hui, mais surtout demain. Comment contrôler ses usages et donc ses possibles dérives? Chaque jour, avec un journaliste de la rédaction, on décryptera l'influence de l'IA sur un aspect concret de votre quotidien. Aujourd'hui, on parle du monde du travail avec Maxime Biermé, le chef du pôle économie.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Comment l'arrivée de l'intelligence artificielle est-elle perçue dans le monde du travail? Alors, dans le monde du travail, il y a différentes réactions face à l'intelligence artificielle. Évidemment, ça dépend des gens et ça dépend des différents métiers. Ici, moi, j'ai voulu m'attacher dans mon article à comprendre comment les employés dans les entreprises, un peu tous les styles d'entreprises, utilisent concrètement l'intelligence artificielle. Donc, pas vraiment les métiers vraiment dédiés à ça, qui sont des gens un peu geeks, qui s'y connaissent très bien, mais plutôt un peu nous, comment on pourrait l'utiliser plus au quotidien. Et ce qu'on voit, c'est que bah, de plus en plus, elle est utilisée. Surtout depuis l'arrivée de ChatGPT fin 2022. Là, il y a vraiment eu une sorte de boom où tout le monde commence à vouloir utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on comprend un petit peu mieux ce que c'est.
Est-ce que cette arrivée fait peur aux travailleurs?
Alors ça dépend. Moi j'ai pu me procurer un sondage qui a été réalisé par une entreprise qui s'appelle Workday. C'est un spécialiste des solutions RH et finance, et donc eux ils s'intéressent beaucoup à l'intelligence artificielle. Ils ont sondé pas mal de leurs clients, et alors il en ressort que si 70% des patrons trouvent que c'est une très bonne idée d'utiliser l'intelligence artificielle, il y a quand même plus de la moitié des employés en moyenne, dans les gens qui ont été sondés par eux, qui disent qu'ils ont quand même des craintes. Donc pour le moment c'est un peu moyen-moyen.
Sur quoi se portent ces craintes vis-à-vis de l'IA?
Alors, il n'y a pas vraiment les détails dans l'étude, mais ce qui ressort, c'est plutôt la crainte d'avoir son job qui est remplacé. Et en fait, je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas encore exactement ce que ça veut dire utiliser l'intelligence artificielle dans son travail.
Aujourd'hui, où en est le déploiement de l'IA dans le monde du travail belge?
Alors, donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que donc dans les grosses entreprises belges, moi, j'ai interrogé des grandes banques comme Belfius, BNP Paribas, j'ai interrogé des gros employeurs ou des gens qui cherchent des employés comme Randstad, hein, qu'on connaît pour les intérims. Et alors, à chaque fois, ce qui ressort, c'est qu'en général, ils ont au minimum mis en place une équipe qui réfléchit à comment on peut utiliser au quotidien mieux l'intelligence artificielle. Et souvent, ils sont même déjà beaucoup plus avancés. Ils ont des responsables qui proposent des formations en interne pour qu'au quotidien, les employés puissent utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour trier leurs mails, pour réaliser des planifications plus faciles des horaires, des vacances, etc., faire des traductions. Finalement, des choses qu'on pouvait déjà faire avant, mais qui maintenant sont beaucoup plus faciles puisqu'il suffit de parler à son assistant virtuel pour les réaliser.
Est-ce qu'au contraire, certaines entreprises se sont montrées complètement réfractaires à l'intelligence artificielle?
Oui, tout le monde n'est pas encore hyper avancé en la matière. Alors moi, j'ai pas contacté toutes les entreprises de Belgique, hein. Évidemment, c'est un petit coup de sonde auprès de grands employeurs. Les deux seules réponses vraiment négatives, entre guillemets, que j'ai eues, c'était dans le secteur public, donc au SPF Finance, où on se dit qu'ils pourraient avoir envie de un peu chipoter pour bien comprendre. Eh bien, là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de réflexion selon le retour que j'ai eu. Même chose chez Actiris, au niveau de l'emploi. On pourrait se dire aussi que là, il y a pas mal de choses à faire. Et pour le moment, bah, on n'a pas l'air de trop s'y intéresser.
Parmi les entreprises qui l'utilisent déjà, est-ce qu'elles utilisent des outils accessibles à tous comme ChatGPT ou ont-elles développé leurs propres outils?
Alors, certaines entreprises laissent leurs employés utiliser ChatGPT, mais la plupart n'ont pas envie que les données, puisque ChatGPT avale toutes les données et les conserve, donc c'est pas ce qu'ils pourraient en faire un jour. Imaginez, vous avez un email avec un client qui vous écrit en néerlandais, mais qui vous donne des contenus assez sensibles sur l'entreprise. Si vous le mettez dans ChatGPT pour la traduction, bah voilà, ça va être dans ChatGPT, il n'y a pas vraiment de filtre de sécurité. Et donc, ce que font les entreprises, c'est qu'elles développent souvent leur propre ChatGPT interne, c'est la même technologie, mais avec le filtre de s'assurer que ça restera au sein de l'entreprise et que donc les infos qu'il pourrait y avoir dans un mail qu'on traduit ou tous les PowerPoints qu'on pourrait faire à partir de l'intelligence artificielle restent dans l'entreprise. Ça, c'est les assistants virtuels. Et puis alors, il y a plein d'outils qui sont déjà utilisés, comme justement, je le disais, des planificateurs, etc., qui permettent de me dire voici qui doit être en congé quand, et des choses comme ça.
Sait-on déjà à quoi pourrait ressembler le monde du travail après cette révolution amorcée par l'intelligence artificielle?
Bah écoute, personne n'a de boule de cristal, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que oui, il y aura de l'intelligence artificielle tous les jours dans notre quotidien. Par exemple, Microsoft, il propose Copilot, c'est un peu le cousin de ChatGPT. Il simplifie vraiment la vie pour réaliser bah, notamment des PowerPoint. On peut imaginer qu'avec Teams, ça sera vraiment possible bientôt. Donc quand on se parle via Teams, dans la conversation, l'assistant Copilot va entendre qu'on se donne rendez-vous demain pour continuer notre discussion à 10h, et hop, automatiquement, il va le mettre dans notre agenda. Ça, c'est pas le futur, c'est déjà presque possible demain.
On le disait en début d'entretien, des craintes existent autour de l'IA. Est-ce que le monde du travail ou les pouvoirs publics ont déjà imposé des limites éthiques à son usage dans les entreprises?
En tout cas, ce qui se met en place, c'est plutôt les aspects sécuritaires que je décrivais, d'être sûr qu'on reste dans l'écosystème de l'entreprise pour pas que les données prennent la fuite. Mais par exemple, on me racontait chez Randstad qu'on n'est pas prêt, et c'est pas prêt d'arriver que demain, ce soit un robot qui fasse passer des entretiens d'embauche. Ça existe déjà, hein, mais beaucoup se mettent la limite éthique de se dire que non, c'est mieux que deux êtres humains se parlent quand il s'agit d'engager quelqu'un, par exemple.
Finalement, cette crainte des employés de se faire remplacer par l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est justifiée ?
Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre en profondeur à la question, mais ce qu'un des interlocuteurs m'a dit dans le cadre de ma petite enquête et qui m'a fort marqué, c'est qu'il dit en fait, l'intelligence artificielle, le but, ce n'est pas qu'elle remplace les gens. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des employés capables d'utiliser l'intelligence artificielle versus des employés qui ne le font pas ou qui ne sont pas capables. Et c'est plutôt là que va se jouer la différence entre les employés. Ce n'est pas que les robots vont prendre notre place, c'est que quand il faudra employer quelqu'un ou garder quelqu'un entre deux personnes, ben on gardera peut-être plus celle qui est capable de jouer avec les outils de l'intelligence artificielle.
Merci Maxime.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Dans la perspective des élections, Le Soir organise des rencontres débats entre des présidents de parti et des abonnés. Si vous avez envie de participer, il suffit de vous inscrire sur le site bonsoir.lesoir.be. En vous inscrivant, vous aurez aussi la possibilité de poser votre question. Merci pour votre écoute et à demain.
Ce podcast vous a été présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.